Ah, elle est belle, elle est vraiment belle, dit-il enfin. Mon oncle, c'est bonne idée que vous avez eue, et aussi de commander cette image. Je vous en sais gré, hautement. Et vous, messire de Bouille, je vous donnerai 200 livres de revenus sur le trésor, le jour des noces.
Oh, sire, murmura Bouville avec reconnaissance, l'honneur de vous servir me récompense bien assez.
Le roi marchait tout agité.
Ainsi, nous sommes fiancés, reprit-il.
Nous sommes fiancés, il ne me reste plus qu'à être démarié.
Oui, sire. Et il faut que cela soit fait avant l'été. C'est la condition pour que vous puissiez convoler avec Madame Clémence.
J'espère bien que je n'aurai pas si longtemps à attendre. Mais qui a posé cette condition ?
La reine Marie, sire, reprit Bouville. Elle a d'autres parties pour sa petite fille, et encore que vous soyez certes le plus glorieux à ses yeux et le plus souhaité, elle n'entend pas s'engager au-delà.
Louis X alors se tourna d'un mouvement interrogateur vers Valois, qui lui-même prit une mine étonnée. Pendant l'absence de Bouville, Valois, qui en contact épistolaire avec Naples se donnait les gants de tout arranger, avait certifié à son neveu que l'engagement était bien en train de se conclure, définitif et sans clause de délai.
« Madame de Hongrie vous a donc exprimé cette condition au dernier instant ?» dit-il à Bouville.
« Non, monseigneur, elle en a parlé plusieurs fois, et elle y est revenue au dernier instant. »
« Bah, ce n'est qu'un mot pour nous hâter un peu et se faire valoir. » Si par aventure tout à fait improbable d'ailleurs l'annulation tardait davantage, Madame de Hongrie prendrait patience.
Je ne sais, monseigneur, la chose était dite de manière bien sérieuse et bien ferme.
Valois ne se sentait pas fort à l'aise et tapotait du bout des doigts le bras de son siège.
Avant l'été, murmurait Louis, avant l'été. Et en quel point avez-vous trouvé le conclave ?
Bouville fit alors le récit de son expédition en Avignon, sans trop insister sur ses mésaventures personnelles. Il rapporta les informations recueillies par Guccio, raconta son entrevue avec le cardinal Duez et insista sur le fait que l'élection d'un pape dépendait avant tout de Marigny. Louis X écoutait avec une grande attention tout en portant fréquemment les yeux vers le portrait de Clémence de Hongrie.
« Duez ?»«
Oui,
disait-il.
Pourquoi pas Duez ?
Il est prêt à prononcer l'annulation ? Il lui manque 7 voix françaises ? Ainsi vous m'assurez, Bouille, que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire. »
« C'est mon sentiment absolu, sire. »
Le hutin se déplaça lentement vers la table où était posé le quitus préparé par Philippe de Poitiers. Il prit une plume d'oie, la trempa dans l'encre. Charles de Valois pâlit.
« Mon neveu ! » s'écria-t-il en s'élançant. « Vous n'allez pas donner décharge à ce coquin ! » !»«
D'autres que vous, mon oncle, affirment que ces comptes sont francs. 6 des barons désignés pour faire l'examen sont de cet avis. Il n'est que votre chancelier pour partager le vôtre. »
« Mon neveu, je vous supplie d'attendre. Cet homme vous trompe comme il a trompé votre père !» cria Valois.
Bouville aurait voulu être hors de la pièce. Louis X fixait sur son oncle un regard buté, méchant.
« Je vous avais dit qu'il me fallait un pape » prononça-t-il.
« Mais Marigny est opposé à Duez !»«
Eh bien, qu'il en choisisse un autre !»
Pour couper à toute nouvelle objection, il ajouta, hors de propos mais avec une grande autorité de ton,
« Rappelez-vous que le roi appartient à la justice, afin de la faire triompher. »
Et il signa le quitus. Valois prit congé sans cacher son dépit. Il étouffait de rage. « J'aurais mieux fait, pensa-t-il, de lui trouver une fille torse et malavenante de visage. Il se montrerait moins pressé. Hein. J'ai été joué, et Marigny va revenir en cour, grâce aux outils que j'avais forgés pour l'enchasser. »